À cette époque, petits et grands, clercs et laïcs, tout tremblait à la pensée d'un pouvoir surnaturel. Le mot de magie était aussi puissant que la lèpre pour briser les sentiments, rompre les liens sociaux et glacer la pitié dans les cœurs les plus généreux. La femme du sergent pensa, soudain, qu'elle n'avait jamais vu ces deux hôtes faisant acte de créature humaine. Quoique la voix du plus jeune fût douce et mélodieuse comme les sons d'une flûte, elle l'entendait si rarement qu'elle fut tentée de la prendre pour l'effet d'un sortilège. En rappelant l'étrange beauté de ce visage blanc et rose, en revoyant par le souvenir cette chevelure blonde et les feux humides de ce regard, elle crut y reconnaître les artifices du démon. Elle se souvint d'être restée pendant des journées entières sans avoir entendu le plus léger bruit chez les deux étrangers. Où était-il pendant ces longues heures? Tout à coup, les circonstances les plus singulières revinrent en foule à sa mémoire. Elle fut complètement saisie par la peur et voulut voir une preuve de magie dans l'amour que la riche dame portait à ce jeune Godefroy, pauvre orphelin venu de Flandre à Paris pour étudier à l'université. Elle mit promptement la main dans une de ses poches, en tira vivement 4 livres tournois en grand blanc, et regarda les pièces par un sentiment d'avarice mêlé de crainte. Ce n'est pourtant pas là de la fausse monnaie ? Dit-elle en montrant les sous d'argent à son mari. Puis, ajouta-t-elle, comment les mettre hors de chez nous, après avoir reçu d'avance le loyer de l'année prochaine ? Tu consulteras le doyen du chapitre, répondit le sergent. N'est-ce pas à lui de nous dire comment nous devons nous comporter avec des êtres extraordinaires ? Ah oui, bien extraordinaire ! S'écria Jacqueline. Voyez la malice, venir se gîter dans le giron même de Notre-Dame. Mais, reprit-elle, avant de consulter le doyen, pourquoi ne pas prévenir cette noble et digne dame du danger qu'elle court? En achevant ces paroles, Jacqueline et le sergent, qui n'avaient pas perdu un coup de dent, rentrèrent au logis. Tirechair, en homme vieilli dans les ruses de son métier, feignit de prendre l'inconnu pour une véritable ouvrière. Mais cette indifférence apparente laissait percer la crainte d'un courtisan qui respecte un royal incognito. En ce moment, 6 heures sonnèrent au clocher de Saint-Denis-du-Pas, petite église qui se trouvait entre Notre-Dame et le port Saint-Landry, la première cathédrale bâtie à Paris, au lieu même où Saint-Denis a été mis sur le grill, disent les chroniques. Aussitôt l'heure vola de cloche en cloche par toute la cité. Tout à coup, des cris confus s'élevèrent sur la rive gauche de la Seine, derrière Notre-Dame, à l'endroit où fourmillaient les écoles de l'université. À ce signal, le vieil hôte de Jacqueline se remua dans sa chambre. Le sergent, sa femme et l'inconnu entendirent ouvrir et fermer brusquement une porte, et le pas lourd de l'étranger retentit sur les marches de l'escalier intérieur. Les soupçons du sergent donnaient à l'apparition de ce personnage un si haut intérêt que les visages de Jacqueline et du sergent offrirent tout à coup une expression bizarre dont fut saisie la dame. Rapportant, comme toutes les personnes qui aiment, l'effroi du couple à son protégé, l'inconnu attendit avec une sorte d'inquiétude l'événement qu'annonçait la peur de ses prétendus maîtres. L'étranger resta pendant un instant sur le seuil de la porte pour examiner les 3 personnes qui étaient dans la salle, en paraissant y chercher son compagnon. Le regard qu'il y jeta, quelque insouciant qu'il fût, troubla les cœurs. Il était vraiment impossible à tout le monde, et même à un homme ferme, de ne pas avouer que la nature avait départi des pouvoirs exorbitants à cet être en apparence surnaturel. Quoique ses yeux fussent assez profondément enfoncés sous les grands arceaux dessinés par ses sourcils, ils étaient comme ceux d'un Milan enchâssés dans des paupières si larges et bordées d'un cercle noir si vivement marqué sur le haut de sa joue, que leur globe semblait être en saillie. Cet œil magique avait je ne sais quoi de despotique et de perçant qui saisissait l'âme par un regard pesant et plein de pensées, un regard brillant et lucide comme celui des serpents ou des oiseaux, mais qui stupéfiait, qui écrasait par la véloce communication d'un immense malheur ou de quelque puissance surhumaine. Tout était en harmonie avec ce regard de plomb et de feu, fixe et mobile, sévère et calme. Si, dans ce grand œil d'aigle, les agitations terrestres paraissaient en quelque sorte éteintes, le visage maigre et sec portait aussi les traces de passions malheureuses et de grands événements accomplis. Le nez tombait droit et se prolongeait de telle sorte que les narines semblaient le retenir. Les os de la face étaient nettement accusés par des rides droites et longues qui creusaient les joues décharnées. Tout ce qui formait un creux dans sa figure paraissait sombre. Vous eussiez dit le lit d'un torrent où la violence des eaux écoulées était attestée par la profondeur des sillons qui trahissaient quelque lutte horrible, éternelle. Semblables à la trace laissée par les trames d'une barque sur les ondes, de larges plis partant de chaque côté de son nez accentuaient fortement son visage et donnaient à sa bouche, ferme et sans sinuosité, un caractère d'amère tristesse. Au-dessus de l'ouragan peint sur ce visage, son front tranquille s'élançait avec une sorte de hardiesse et le couronnait comme d'une coupole en marbre. L'étranger gardait cette attitude intrépide et sérieuse que contractent les hommes habitués au malheur, fait par la nature pour affronter avec impassibilité les foules furieuses et pour regarder en face les grands dangers. Il semblait se mouvoir dans une sphère à lui, d'où il planait au-dessus de l'humanité. Ainsi que son regard, son geste, possédait une irrésistible puissance. Ses mains décharnées étaient celles d'un guerrier. S'il fallait baisser les yeux quand les siens plongeaient sur vous, il fallait également trembler quand sa parole ou son geste s'adressait à votre âme. Il marchait entouré d'une majesté silencieuse qui le faisait prendre pour un despote sans garde, pour quelque dieu sans rayon. Son costume ajoutait encore aux idées qu'inspiraient les singularités de sa démarche ou de sa physionomie. L'âme, le corps et l'habit s'harmoniaient ainsi de manière à impressionner les imaginations les plus froides. Il portait une espèce de surplis en drap noir, sans manches, qui s'agrafait par devant et descendait jusqu'à mi-jambe, en lui laissant le col nu, sans rabat. Son juste corps et ses bottines, tout était noir. Il avait sur la tête une calotte en velours semblable à celle d'un prêtre et qui traçait une ligne circulaire au-dessus de son front, sans qu'un seul cheveu s'en échappât. C'était le deuil le plus rigide et l'habit le plus sombre qu'un homme pût prendre. Sans une longue épée qui pendait à son côté, soutenu par un ceinturon de cuir que l'on apercevait à la fente du surtout noir, un ecclésiastique l'eût salué comme un frère. Quoiqu'il fût de taille moyenne, il paraissait grand. mais en le regardant au visage, il était gigantesque. L'heure a sonné, la barque attend. Ne viendrez-vous pas? À ces paroles prononcées en mauvais français, mais qui furent facilement entendues au milieu du silence, un léger frémissement retentit dans l'autre chambre, et le jeune homme en descendit avec la rapidité d'un oiseau. Quand Godefroy se montra, le visage de la dame s'empourpra. Elle trembla, tressaillit et se fit un voile de ses mains blanches. Toute femme eût partagé cette émotion en contemplant un homme de 20 ans environ, mais dont la taille et les formes étaient si frêles qu'au premier coup d'œil vous eussiez cru voir un enfant ou quelque jeune fille déguisée. Son chaperon noir, semblable au béret des Basques, laissait apercevoir un front blanc comme de la neige, où la grâce et l'innocence étincelaient en exprimant une suavité divine, reflet d'une âme pleine de foi. L'imagination des poètes aurait voulu y chercher cette étoile que, dans je ne sais quel conte, une mère pria la fée marraine d'empreindre sur le front de son enfant abandonné comme Moïse au gré des flots. L'amour respirait dans les milliers de bouches blondes qui retombaient sur ses épaules. Son cou, véritable cou de cygne, était blanc et d'une admirable rondeur. Ses yeux bleus, pleins de vie et limpides, semblaient réfléchir le ciel. Les traits de son visage, la coupe de son front, était d'un fini, d'une délicatesse à ravir un peintre. La fleur de beauté qui, dans les figures de femmes, nous cause d'intarissables émotions, cette exquise pureté des lignes, cette lumineuse auréole posée sur des traits adorés, se mariait à des teintes mâles, à une puissance encore adolescente, qui formait de délicieux contrastes. C'était enfin un de ces visages mélodieux qui, muet, nous parle et nous attire. Néanmoins, en le contemplant avec un peu d'attention, peut-être y aurait-on reconnu l'espèce de flétrissure qu'imprime une grande pensée, ou la passion, dans une verdeur mate qui le faisait ressembler à une jeune feuille se dépliant au soleil. Aussi, jamais opposition ne fut-elle plus brusque ni plus vive que l'était celle offerte par la réunion de ces deux êtres. Il semblait voir un gracieux et faible arbuste, né dans le creux d'un vieux saule, dépouillé par le temps, sillonné par la foudre, décrépit, un de ces saules majestueux, l'admiration des peintres. Le timide arbrisseau s'y met à l'abri des orages. L'un était un dieu, l'autre était un ange. Celui-ci, le poète qui sent, celui-là, le poète qui traduit. Un prophète souffrant, un lévite en prière. Tous deux passèrent en silence. Avez-vous vu comme il a sifflé? S'écria le sergent de ville au moment où le pas des deux étrangers ne s'entendit plus sur la grève. N'est-ce point un diable et son page? Ouf, répondit Jacqueline, j'étais oppressée. Jamais je n'avais examiné nos hôtes si attentivement. Il est malheureux, pour nous autres femmes, que le démon puisse prendre un si gentil visage. Oui, jette-lui de l'eau bénite, s'écria Tirecher, et tu le verras se changer en crapaud. Je vais aller tout dire à l'officialité. En entendant ce mot, la dame se réveilla de la rêverie dans laquelle elle était plongée et regarda le sergent qui mettait sa casaque bleue et rouge. « Où courez-vous ? » dit-elle. « Informez la justice que nous logeons des sorciers, bien à notre corps défendant. » L'inconnu se prit à sourire. Je suis la comtesse Mao, dit-elle en se levant avec une dignité qui rendit le sergent tout pantois. Gardez-vous de faire la plus légère peine à vos hôtes. Honorez surtout le vieillard. Je l'ai vu chez le roi, votre seigneur, qu'il a courtoisement accueilli. Vous seriez mal avisé de lui causer le moindre encombre. Quant à mon séjour chez vous, n'en sonnez mot si vous aimez la vie. La comtesse se tut et retomba dans sa méditation. Elle releva bientôt la tête, fit un signe à Jacqueline, et toutes deux montèrent à la chambre de Godefroy. La belle comtesse regarda le lit, les chairs de bois, le bahut, les tapisseries, la table, avec un bonheur semblable à celui du banni qui contemple, au retour, les toits pressés de sa ville natale, assise au pied d'une colline. « Si tu ne m'as pas trompé, dit-elle à Jacqueline, je te promets 100 écus d'or. »« Tenez, madame, répondit l'hôtesse, le pauvre ange est sans méfiance. Voici tout son bien. » Disant cela, Jacqueline ouvrait un tiroir de la table et montrait quelques parchemins. « Oh, Dieu de bonté !» s'écria la comtesse en saisissant un contrat qui attira soudain son attention et où elle lut. « Gotofredus comes gantiatcus. » Godefroy, comte de Gand. Elle laissa tomber le parchemin, passa la main sur son front, mais, se trouvant sans doute compromise de laisser voir son émotion à Jacqueline, elle reprit une contenance froide. « Je suis contente, » dit-elle. Puis elle descendit et sortit de la maison. Le sergent et sa femme se mirent sur le seuil de leur porte et lui virent prendre le chemin du port. Un bateau se trouvait amarré près de là. Quand le frémissement du pas de la comtesse put être entendu, un marinier se leva soudain, aida la belle ouvrière à s'asseoir sur un banc et rama de manière à faire voler le bateau comme une hirondelle en aval de la Seine. « Es-tu bête ? » dit Jacqueline en frappant familièrement sur l'épaule du sergent. « Nous avons gagné, ce matin, 100 écus d'or. Je n'aime pas plus loger des seigneurs que loger des sorciers. Je ne sais qui, des uns ou des autres, nous mène plus vitement au gibet, » répondit Tirechair en prenant sa hallebarde. « Je vais, » reprit-il, « aller faire ma ronde du côté de Champfleury. Ah, que Dieu nous protège et me fasse rencontrer quelques galloises ayant mis ce soir ses anneaux d'or pour briller dans l'ombre comme un ver luisant. » Jacqueline, restée seule au logis, monta précipitamment dans la chambre du seigneur inconnu pour tâcher d'y trouver quelques renseignements sur cette mystérieuse affaire. Semblable à ces savants qui se donnent des peines infinies pour compliquer les principes clairs et simples de la nature, elle avait déjà bâti un roman informe qui lui servait à expliquer la réunion de ces trois personnages sous son pauvre toit. Elle fouilla le bahut, examina tout, et ne put rien découvrir d'extraordinaire. Elle vit seulement sur la table une écritoire et quelques feuilles de parchemin, mais comme elle ne savait pas lire, cette trouvaille ne pouvait rien lui apprendre. Un sentiment de femme la ramena dans la chambre du beau jeune homme, d'où elle aperçut par la croisée ses deux hôtes qui traversaient la Seine dans le bateau du passeur. Ils sont comme deux statues, se dit-elle. Ah! Ils abordent devant la rue du Fouarre. Est-il leste, le petit mignon? Il a sauté à terre comme un bouvreuil. Près de lui, le vieux ressemble à quelque saint de pierre de la cathédrale. Ils vont à l'ancienne école des quatre nations. Preste! Je ne les vois plus. C'est là qu'il respire, ce pauvre chérubin, ajouta-t-elle en regardant les meubles de la chambre. Est-il galant et plaisant? Ah, ces seigneurs, c'est autrement fait que nous. Et Jacqueline descendit, après avoir passé la main sur la couverture du lit, épousseté le bahut, et s'être demandé, pour la centième fois depuis 6 mois, à quoi diable passe-t-il toutes ces saintes journées? Il ne peut pas toujours regarder dans le bleu du temps et dans les étoiles que Dieu a pendues là-haut comme des lanternes. Le cher enfant a du chagrin. Mais pourquoi le vieux maître et lui ne se parlent-ils presque point? Puis elle se perdit dans ses pensées qui, dans sa cervelle de femme, se brouillèrent comme un écheveau de fils.